Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Une fois n'est pas coutume, nous allons à l'antenne de l'Union rationaliste, coller à l'actualité pour tenter d'examiner en rationaliste une question médicale qui agite le milieu de la gynécologie et de l'obstétrique, celle des pilules de 3e et 4e génération. Avec moi, pour débattre de cette question, le professeur Sophie Christin Maître.
Sophie, bonjour.
Bonjour, professeur. Vous êtes professeur d'endocrinologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et spécialiste de la reproduction. Je vous remercie infiniment d'être avec nous ce matin à l'antenne de l'Union rationaliste. Et je vais dans un premier temps faire un bref rappel des faits. Tout commence, me semble-t-il, à la mi-décembre 2012, par le dépôt d'une plainte d'une patiente, Marion Lara, suivie ensuite par d'autres plaintes de patientes victimes d'accidents vasculaires. Marion Lara a été victime d'un accident vasculaire cérébral à la suite de la prise de contraceptifs. En réaction à cet événement tragique, le ministère de la Santé annonce la limitation de la prescription, semant un véritable vent de panique chez un très grand nombre de patientes. Certains gynécologues ont reproché au ministère de la Santé une communication intempestive et d'être en quelque sorte des pompiers pyromades en augmentant la panique à la fois chez les jeunes filles et chez les femmes prenant la pilule, vent de panique auquel le ministère répond aujourd'hui en amendant les choses, en proposant un numéro vert. Bon. Dans cette panique, de nombreuses patientes se sont véritablement inquiétées, s'inquiètent encore. Certaines ont pris d'assaut le téléphone de leur gynécologue, avec raison. D'autres ont décidé d'arrêter purement et simplement la pilule, courant de très nombreux risques, en particulier et de ne plus être protégées et de devoir recourir à l'IVG. D'ailleurs, le nombre d'IVG après arrêt de la pilule a très sérieusement augmenté ces derniers temps dans les services hospitaliers. Le contexte politique où la prise de pilule est critiquée est, me semble-t-il, pas totalement anodin. Nous sommes dans une période d'âpres discussions autour du mariage homosexuel. Nous avons à l'Union rationaliste consacré d'ailleurs la dernière émission, celle de décembre, à ce thème avec Bruno Perrault. Et de même que certains milieux religieux et réactionnaires restent massivement homophobes, il me semble qu'ils condamnent la prise de moyens contraceptifs chez les femmes et a fortiori chez les très jeunes filles. Enfin, économiquement, on met en cause les laboratoires pharmaceutiques qui seraient à la fois juges et parties dans la formation des médecins et dans la mise à jour de leurs connaissances. Donc, nous sommes au carrefour d'un contexte historique, politique, complexe. Et dans ce contexte-là, je voudrais, Sophie Christin Maître, que pour démêler les choses et faire la lumière sur cette question complexe, dans un premier temps, nous repartions sur l'histoire de la pilule et des moyens de contraception.
Les médecins sont effectivement extrêmement sollicités ces derniers temps pour répondre à leurs patientes, qui ne sont d'ailleurs pas des patientes puisque ce sont des femmes. Et pour être patiente, il faut être malade. Et le fait de prendre la pilule n'est pas une maladie. Donc je voudrais d'abord reprendre sur l'histoire de la pilule. Quand on dit la pilule, ça veut dire que c'est une association de deux hormones, l'estrogène et un composé qu'on appelle le progestatif. Donc cette avancée, elle date des 1960 et elle est la source d'un combat extrêmement important qui a été mené par deux femmes très militantes, Margaret Sanger d'une part et Catherine McCormick d'autre part, qui ont permis en association avec Gregory Pincus de mettre au point les premières pilules. Donc je voudrais d'emblée dire que la notion d'accident vasculaire, qui peut donc engendrer une paralysie, est connue depuis les années 1960. En effet, dans les premières prises de pilules, il y a eu un nombre assez important d'accidents. Et si on était à l'heure actuelle à la diffusion de ces traitements, probablement la pilule n'aurait jamais vu le jour, puisque ces quelques cas de patientes, de femmes ayant des inconvénients, auraient arrêté toute diffusion de ces pilules estroprogestatives. Et je voudrais rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 100 millions de femmes à travers le monde qui prennent une pilule estroprogestative. Donc ces pilules, au départ, elles avaient des très fortes doses d'estrogène. Donc c'est la raison pour laquelle la proportion d'accidents était beaucoup plus élevée qu'à l'heure actuelle. Mmh. Et au cours des années, a été diminuée cette concentration dans ce produit qu'on appelle l'éthinylestradiol, qui est donc un estrogène actif par voie orale. Et donc, des doses initiales aux alentours de 130 microgrammes, on est passé à 100, puis 50. Et à l'heure actuelle, toutes les pilules disponibles en France, la quasi-totalité, ont moins de 35 microgrammes de composés d'éthinylestradiol. Donc, suite à cette baisse de cette concentration, le risque a énormément diminué. Et les chiffres qui sont très bien connus à l'heure actuelle, en particulier grâce à des études danoises, puisque les Danois ont fait beaucoup de registres sur les traitements et les effets secondaires de ces traitements. Donc on a toutes ces données qui ont été très largement publiées l'année dernière et l'année d'avant. Et on sait que donc, ce que l'on appelle deuxième génération, ce sont des pilules qui contiennent un certain type de progestatif. Et les pilules de troisième génération, elles contiennent d'autres molécules, d'autres progestatifs. Et il ne faut cependant pas croire que plus la génération est récente, meilleure est a priori la pilule. Et je rappelle que les recommandations de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, en 2004, a bien dit qu'en première intention, il faut donner une pilule de deuxième génération.
D'ailleurs, la majorité des femmes prennent ces pilules de deuxième génération à l'heure actuelle, statistiquement.
Alors statistiquement, beaucoup, à peu près la moitié prennent deuxième génération et l'autre moitié troisième génération.
D'accord.
Donc si on veut parler de chiffres, le risque principal de la pilule, c'est de faire une phlébite, c'est-à-dire un caillot dans les veines, et ce caillot peut migrer dans le poumon et donner une embolie pulmonaire. Le risque, il est globalement, avec les deuxièmes générations, de 2 pour 10 000 femmes. Mmh. Ce qui veut dire que 9998 n'auront pas d'inconvénients. Avec les troisièmes générations, ou avec ce qui est appelé quatrième génération, qui n'est pas un terme actuellement validé sur le plan international, le risque est aux alentours de 4 pour 10 000. Donc effectivement, si on parle de risque relatif, ça fait deux fois plus, mais deux fois un événement très rare. Certes, fort invalidant pour les femmes chez qui il arrive, mais très rare.
Donc, nous sommes là aussi pour peser le risque réel et supposé pour ces pilules de troisième et quatrième génération. Donc, ce que vous nous dites, professeur Christin Maître, c'est que ce risque n'est pas nul. Et justement, on ne peut pas parler en termes absolus, mais ce risque est infime. Et donc, le battage médiatique dans lequel nous sommes plongés en ce moment et sur lequel je tenais à faire la lumière en rationaliste, ce battage médiatique est absolument disproportionné.
Alors, en tout cas, sur le plan médical, il paraît totalement déraisonnable. D'une part, parce que le premier battage médiatique, il est survenu en Angleterre en 1995. Mmh. La même question s'est posée et toutes les données ont été réévaluées et les données étaient assez rassurantes. Certes, certaines pilules de quatrième génération n'étaient pas disponibles en 1995, mais les données publiées dans de très grands journaux, le Lancet, le New England, en 2010-2011, on rapportait les données qui sont les chiffres que je vous ai donnés. Un autre point important, c'est que ces événements, ils surviennent souvent chez des femmes à risque, c'est-à-dire des femmes qui ont, dans certains cas, des antécédents dans la famille de phlébite ou d'embolie pulmonaire. Donc le terrain est très important. Et si dans la famille, il n'y a aucun événement, on ne peut pas être rassuré, mais
il faut être tranquillisé
et surtout ne pas arrêter sa pilule.
Oui, alors c'est ça, hein, un des gros messages qu'il faut aujourd'hui diffuser.
Mais c'est le message à diffuser parce qu'en 1995, effectivement en Angleterre, ça a été parfaitement établi. Ce vent de panique a augmenté le nombre d'IVG. Un autre point important, c'est que ces femmes qui font des accidents avec la pilule sont à haut risque pendant la grossesse. Donc si elles arrêtent leur pilule et qu'elles ont une grossesse non désirée, elles pourront faire la phlébite ou l'embolie pulmonaire pendant la grossesse.
Alors, très concrètement et pratiquement, ce que vous recommandez, le professeur Christin Metz, c'est à ces jeunes femmes qui s'inquiètent d'aller voir leur médecin et leur gynécologue.
Alors, surtout si elles prennent cette contraception depuis longtemps et qu'elles la tolèrent très bien, la continuer, ne pas s'inquiéter. Un autre point, c'est que ce risque est très élevé la première année
c'est
de
ça.
Prise. Cela ne sous-entend pas que si on passe la première année, il n'y a plus de risque,
mais
il y en a moins. Donc, une femme qui est sous une pilule qu'elle tolère bien...
Depuis 5 ans.
Exactement. Il n'y a aucune indication à changer de pilule ou à téléphoner en urgence à son médecin.
Oui, donc il faut calmer le jeu là-dessus. Hein.
C'est très clair.
Une des explications qu'on aurait pu donner à ce vent ou à cet orage médiatique autour de ces pilules de troisième et quatrième génération, c'est le rapport au laboratoire pharmaceutique et au dernier scandale du Mediator qui doit évidemment être resté dans les esprits. Et donc j'aurais voulu que vous fassiez un point sur qui fait l'information et la mise à jour des connaissances médicales en France. Et quel est le poids des laboratoires pharmaceutiques ?
Alors, je crois que certains journaux ont fait des amalgames qui sont fort regrettables. Je voudrais insister à nouveau sur le fait que la pilule, c'est pas que en France, c'est à travers le monde qu'il y a des données internationales et qu'il ne faut pas rester franco-français. Certes, à l'heure actuelle, la formation médicale n'est pas encore en France extrêmement efficace, il faut le reconnaître. Pour quelle raison ? Cette formation, à l'heure actuelle, et jusqu'à présent, il n'y avait aucun financement, contrairement à d'autres pays d'Europe où les médecins ont une rémunération pour leur formation, donc qui leur permet d'aller à des congrès, d'assister à des congrès ou d'assister à des réunions pour leur formation. Jusqu'à présent, les médecins en France, je voudrais rappeler que le métier de médecin, c'est un métier passionnant, mais extrêmement difficile. L'information est extrêmement vaste, les connaissances évoluent très vite, il faut se maintenir à jour et que pour chaque discipline, et la médecine en particulier pour un médecin généraliste, il doit à la fois être au courant cardiologie, neurologie, rhumatologie, gynécologie, c'est extrêmement complexe. Il y a une dizaine de journaux avec chaque mois 10 articles différents, donc il faut arriver à faire une synthèse. Donc cette synthèse, elle est soit obtenue par des journaux, par exemple par Internet, soit par des journaux qui sont diffusés, soit par de l'enseignement qui a lieu dans un centre universitaire, ou par des congrès. Et donc, il faut reconnaître que le financement principal des congrès à l'heure actuelle, c'est l'industrie pharmaceutique.
Alors, certains y voient justement le lieu possible d'une manipulation, d'une instrumentalisation. Mais ce que vous avez envie de dire, Sophie Christin Metz, c'est que ça n'est pas du tout le cas.
Alors, je crois qu'il y a toujours des excès, il y a toujours des exceptions. Mais il faut arrêter de critiquer en permanence les médecins qui auraient un rôle de complot, qui s'enrichiraient sur les patients et sur les traitements.
Et qui seraient les instruments des laboratoires pharmaceutiques.
Exactement. Je pense que bon, les médecins ont quand même un esprit critique et il suffit de lire la littérature pour avoir des données. La littérature internationale dans les bons journaux, elle n'est pas financée par l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, à l'heure actuelle, si une étude est financée par l'industrie pharmaceutique, c'est stipulé dans l'article. Et les conflits d'intérêts de tous les auteurs des articles doivent être mentionnés. C'est actuellement obligatoire sur le plan international.
Alors, Sophie Crestin-Maître, pour finir, quel conseil donneriez-vous pour une meilleure communication sur ces questions qui engagent à la fois le médical, le social et le politique? Comment faire pour que de tels orages, comme celui que nous traversons, n'aient moins lieu ou plus lieu?
Alors, il est difficile de répondre à cette question. Moi, j'aurais bien aimé que l'orage n'arrive jamais. Il est vrai qu'il a souligné le fait que la formation des médecins n'est pas parfaite. Mais va être mis en place un système de DPC, donc de système de parcours professionnel continu qui va être mis en place, et chaque médecin devra, comme dans beaucoup de pays dans le monde, donner un certain nombre de points, donc prouver qu'il s'est formé sur certains éléments. Donc il a souligné le fait que les médecins ne demandaient peut-être pas systématiquement est-ce qu'il y avait eu un antécédent de phlébite dans la famille. Autre point important, il faut prendre la pression artérielle d'une femme qui vient consulter. Ça, c'est tout simple et c'est un geste évident qu'il faut faire. Et l'OMS recommande c'est le seul geste qu'il faut faire sur le plan de l'examen médical quand on prescrit une pilule estroprogestative. Donc, je voudrais que toutes les données étaient connues, qu'il ne faut pas s'inquiéter et que la pilule est, comme disait François Giroud, la plus grande avancée du XXe siècle, et que une femme qui peut maîtriser sa fertilité avec la prise d'un traitement, c'est quand même une grande avancée pour la condition féminine.
Mais oui, c'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Sophie Crestin-Maître, je vous remercie.
Merci.
Je rappelle que le numéro 183 de Raison Présente porte sur sexualité et normativité et fait écho aux réflexions que nous avons tenues aujourd'hui. Je remercie Bruno Sourcy et Éric Villenfin qui ont rendu possible cette émission. Et je signale que le mois prochain, je recevrai Gabriel Gaud et Évariste Sanchez-Palencia pour une promenade dialectique dans les sciences. Merci.